Vous écoutez le libre journal de la liberté de pensée dirigé par Anne-Sophie Ingreboyeldu, assistée d'Anne-Laure Malère, diffusée en direct sur Radio Courtoisie mercredi 15 mars 2023 de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour et particulièrement aux fidèles auditeurs et auditrices du Libre Journal de la Liberté de Penser. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel autour d'un vaste sujet, celui de la liberté de penser. Et j'ai à mes côtés, pour en débattre également, Anne-Laure Malère, ma chère assistante que tous les auditeurs connaissent.
Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau libre journal de la liberté de penser avec ma grande complice.
Voilà, vous l'aurez compris.
Ma maîtresse, ma chef.
Je pense que ça s'entend.
Ma vénérée complice.
Voilà, Anne-Laure Malère qui, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, est également directrice d'une très belle émission le samedi soir, une fois par mois. Libre journal de, pendant qu'on y est, on va se faire de la pub.
De la plus grande France.
Voilà.
Très politique, bien plus politique et bien plus méchant que le vôtre.
Alors, dans cette heure et demie que l'on va avoir ensemble sur les ondes de Radio Courtoisie, nous allons avoir le plaisir de recevoir deux invités. Et eux qui sont tout d'abord Blanche Streeb, qui a écrit un livre sur un thème un peu particulier, qui est un thème qui est un peu mis au banc de la société, en marge en tout cas, qui est celui de la grâce à l'émerveillement et de l'émerveillement en général. Je remercie les éditions Salvator parce que j'aime toujours faire un petit clin d'œil aux maisons d'édition qui sont courageuses, surtout en ce moment où le livre est un objet qu'on peut trouver sur des sites internet qui font peut-être un peu de mal aussi à nos librairies. Donc les éditions Salvator pour la grâce à l'émerveillement, Blanche Streeb qui va nous parler de cette notion qui est une jolie notion avec plein de thèmes qui se greffent autour pour voir la vie aussi sous un autre jour. Et puis j'aurai le plaisir d'accueillir en deuxième partie d'émission Anne Treby. Anne Treby, vous la connaissez, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Elle est porte-parole du mouvement féminin Antigone. Alors sur Radio Courtoisie, dans le Libre Journal de la Liberté de Penser, nous allons parler du féminisme. Et oui, femmes, réveillez-vous, point d'exclamation. Pour en finir avec les mensonges du féminisme aux éditions La Nouvelle Librairie. Nous en parlerons ensemble avant d'accueillir en dernière partie d'émission Sylvain Durin, qui est aussi un fidèle de Radio Courtoisie, qui est notamment un éditeur, mais aussi qui tient une librairie à Nancy, qui a fait face à des attaques de l'extrême gauche récemment. Nous en parlerons aussi également sous le thème de la liberté de penser. Peut-on penser dans un milieu culturel? Peut-on penser de droite? Peut-on penser catholique? Peut-on penser autrement? Alors, je vais commencer par ma première invitée, Blanche Streeb, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Bonjour Blanche.
Bonjour à tous.
Merci, en fait ça fait plusieurs fois, je vous remercie de participer à ce Libre Journal de la Liberté de Penser parce que je suis votre actualité, vous êtes, je vais faire une petite bio de vous mais corrigez-moi si je me trompe, vous êtes, c'est pas par ordre de priorité, hein, docteur en pharmacie, mère de famille, vous êtes également engagée dans le monde associatif, mais ce n'est pas pour ça que vous venez aujourd'hui, mais je vais quand même citer l'Alliance Vita parce que c'est important de le faire. Vous êtes essayiste et chroniqueuse et vous avez publié deux ouvrages qui ont été salués et remarqués, qui s'appellent de mémoire « Bébé sur mesure » et « Le monde des meilleurs », c'est ça ?«
Bébé sur mesure, le monde des meilleurs », c'est ça, oui, chez Arthège, le premier.
Voilà, et « Éclat de vie » aux éditions Emmanuel, c'est ça. En 2019.
Exactement.
Je vous reçois aujourd'hui parce que moi, c'est un thème qui m'a, quand j'ai vu que vous aviez écrit dessus, l'émerveillement, c'est un thème qui m'a parlé, mais comme me parle et comme parlent un peu nos Madeleines de Proust, c'est-à-dire une sensation d'enfance, un sentiment qu'on a connu, l'émerveillement, mais un sentiment, je sais pas comment vous allez l'appeler d'ailleurs, une émotion, un ressenti qui semble un peu désuet et venir d'ailleurs quand on est adulte. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout un livre sur cette notion qui paraît presque naïve et désuète aujourd'hui, et comment vous la définiriez, s'il vous plaît, pour commencer?
Oui, très bien. Bon, bah déjà, en travaillant ce sujet, j'ai réalisé vraiment à quel point c'est tout sauf désuet, c'est tout sauf naïf, c'est tout sauf périmé. C'est vraiment, je crois, une science, presque un secret, quoi, une science éternelle de la vie que je pense qu'il nous faut profondément redécouvrir aujourd'hui. Parce que je crois que notre monde est en souffrance, notre monde être assoiffé d'espérance, assoiffé de sens, et que effectivement vous le disiez, on a tous goûté à l'émerveillement. Il n'y a aucune vie qui ne connaît pas l'émerveillement, même les vies les plus douloureuses, et probablement aussi les vies les plus souffrantes y ont parfois accès. En fait, c'est pour le définir, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, je peux donner quelques idées que voilà, j'ai creusé un peu dans ce livre. Eh bien, c'est, je dirais que c'est un sens particulier de l'âme, peut-être le sens des sens qui nous aide. C'est une disposition humaine innée hein, dans le cœur de chacun et qui nous aide à comprendre au-delà d'une émotion. C'est quelque chose de qui vient toucher d'abord peut-être par l'essence et par l'émotion, mais qui ensuite vient s'inscrire dans notre intelligence, dans nos profondeurs, dans notre vaste connaissance. Je dirais c'est cette capacité qu'on a de comprendre, de savoir, sans forcément toujours pouvoir l'expliquer, qu'il y a autre chose, qu'il y a plus, qu'il y a une connaissance au-delà de ce qu'on sait, qu'il y a une réalité au-delà de ce qu'on voit, et que on en a soif, on en a besoin pour habiter notre vie, pour transformer notre quotidien, la banalité parfois peut-être de nos journées ou de nos actions, et pour finalement approcher cette vie en profondeur que je crois on désire tous au fond.
Vous avez une définition qui m'a beaucoup plu. Vous dites l'émerveillement, c'est un acte de résistance intérieure.
Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a donc je le disais, c'est un peu un don, mais c'est aussi quelque chose de l'ordre de la vertu. Donc ça se cultive, donc ça se travaille. Et il y a une sorte de décision intérieure. Et je trouve que de nos jours, peut-être, d'abord, on ne parle pas assez d'émerveillement, mais on ne parle pas non plus assez de liberté intérieure, de cet espace en nous, de l'ordre de la volonté, de la responsabilité, qui peut nous aider de temps en temps à choisir, quoi. Pas juste à subir. Pas juste à choisir en se croyant libre, mais en fait on est bombardé d'injonctions, mais à écouter finalement en nos profondeurs et à vouloir résister au désenchantement du monde qu'on nous met sous les yeux tout le temps, à ce cynisme ambiant, à cette tentation très contemporaine de croire qu'on maîtrise tout, qu'on s'est fait tout seul, que plus rien n'est donné, que l'homme est capable de tout choisir, de tout décider, de tout construire et déconstruire. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a dans l'émerveillement un acte de résistance.
Et d'abandon, alors, d'après ce que vous dites.
Et d'abandon. Oui, d'abandon et de résistance. Et c'est effectivement un peu tout mêlé. En fait, d'abandon, en tout cas, d'accueillir ce qui nous est donné, d'être dans une gratitude par rapport à ce qui nous est donné qu'on n'a pas forcément décidé
parce que
ou
choisi. Ce que vous décrivez, quand on dit l'émerveillement, pour que nos éditeurs comprennent aussi ce que ça veut dire, on peut s'émerveiller, mais pas forcément parce qu'on est devant une des sept merveilles du monde. On peut s'émerveiller de petites choses, et c'est peut-être presque ça qui est le plus difficile, mais qui est le plus gratifiant aussi dans l'émerveillement.
Oui, c'est exactement ça, oui. C'est que l'émerveillement, évidemment, il est assez facile devant les montagnes, devant des sommets enneigés, devant l'océan, etc., devant la grandeur du monde et la beauté de la création. Là, effectivement, c'est assez spontané et facile, mais l'émerveillement, on l'a tous aussi vécu dans des choses toutes petites, quoi. Dans un rayon de soleil le matin, dans un regard échangé avec quelqu'un, dans une parole entendue, dans un morceau de musique, dans une dans une odeur, dans un sourire, dans un instant, quoi. Voilà. Et effectivement, l'émerveillement, j'aime à dire que, en fait, il va pas rendre notre ordinaire merveilleux, mais il va nous donner de voir le merveilleux dans l'ordinaire, en fait. C'est une qualité de notre regard qui est là en question, qui n'est pas tant l'objet regardé, mais la manière dont on va regarder. Donc c'est pour ça que c'est effectivement cette résistance intérieure, c'est ce regard, cette qualité de regard qu'on va avoir sur la vie, sur les
parce
autres,
que
sur notre
résistance, pourquoi ? Parce que c'est presque plus facile de ne pas s'émerveiller et de grogner tout le temps, en fait. C'est ça que vous avez, quand vous parlez de résistance.
Oui, je crois que c'est exactement ça.
C'est beaucoup plus facile de geindre que de s'émerveiller, de prendre le temps, de se poser.
Oui,
et vous dites de consentir, c'est beau ça.
Oui, de consentir, qui ne veut pas dire non plus être béat, voilà. Mais effectivement, peut-être d'être dans un accueil actif, quoi, un accueil où on laisse l'émerveillement vraiment nous transformer, de passer à travers nous pour y laisser un peu d'enthousiasme se réveiller, quoi.
Alors, quand on parle d'émerveillement, pour revenir un peu à vous et sur ce qui vous a poussé à écrire un livre qui fait quand même près de 200 pages sur l'émerveillement, ce qui n'est pas simple au départ. On se dit, tiens, comment elle va faire cette auteure pour arriver. Est-ce que vous, sans rentrer dans des détails de vie trop personnels, mais est-ce que vous, il y a des choses, est-ce qu'on n'est pas obligé, pour faire plus simple, d'être passé par des épreuves, ce que chaque être humain a dans sa vie, vie, plus ou moins grande, pour justement, par contraste, être plus apte à l'émerveillement? Est-ce que vous, ça a été votre démarche?
Je ne l'aurais pas nommé comme ça avant de vraiment me retourner sur ma vie et de réfléchir à ce thème extraordinaire sur lequel effectivement j'ai écrit beaucoup de pages, mais je crois qu'on pourrait en écrire encore beaucoup plus, évidemment, et qu'il y a d'autres pages qui ont à leur manière aussi déjà été écrites par d'autres auteurs, d'autres penseurs, qui parlent de manière plus ou moins claire de l'émerveillement, mais en tout cas qui nous donnent de goûter, en fait. Socrate déjà en parlait, il disait que la sagesse naissait dans l'émerveillement. Moi j'apporte juste ma petite pierre, mon petit regard, que j'ai quand même beaucoup travaillé. Et pourquoi ce livre? Dans mon histoire, c'est très beau de voir que je parle beaucoup des appels de la vie dans ce livre, et parce que ça, c'est quelque chose que je vis. Et vous avez mentionné mes trois livres. Les trois livres sont des appels d'éditeurs qui sont venus toquer à la porte. Et donc, ce livre-là, il est dans une très belle collection chez Salvator qui aborde... c'est le deuxième de la collection, il y en aura sept.
La foi au cœur, c'est ça ?
Voilà, la foi au cœur. Chaque auteur, le prochain c'est Martin Stephens bientôt, chaque auteur est invité à creuser un don particulier de l'Esprit Saint. Et donc moi j'ai travaillé sur le don de science, qui peut sembler être comme ça un gros mot, mais qui en fait est beaucoup plus simple à comprendre son nom pourrait nous le laisser un peu trop vite croire. Et en fait, en travaillant ce sujet tout naturellement, je suis arrivée à l'émerveillement, en fait. Donc, c'est pas
d'abord quoi le don de science, Blanche Streb, pour nos auditeurs de Radio Courtoisie?
La sagesse chrétienne nous enseigne qu'il y a sept dons du Saint-Esprit qu'on trouve de manière historique dans la Bible, dans l'Ancien Testament, notamment. Donc, sept dons particuliers, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la piété, la crainte de Dieu. Et moi, j'ai travaillé sur celui de science, parce que peut-être je suis scientifique de formation, et d'ailleurs, j'ai horreur qu'on dise que je suis scientifique, je lis aussi dans le livre, parce que je ne me reconnais pas, en fait. J'ai fait des études scientifiques, mais je ne me sens pas du tout un esprit scientifique.
Rappelons que vous êtes docteur en pharmacie, voilà.
Voilà, j'ai fait des études où il y a beaucoup de science, mais je ne me sens pas du tout scientifique, c'est amusant. Voilà, et en fait, en creusant ce sujet qui est passionnant, je suis arrivée assez naturellement, en fait, à mettre ce mot émerveillement. Donc, il est venu à moi, en fait, il a émergé, en fait, en travaillant aussi par l'inspiration. Moi, je suis émerveillée de voir, en tant qu'écrivain, qui écrit beaucoup, parce que vous avez mentionné que, j'écris Je suis chroniqueuse aussi à l'ETEIA, RCF, oui. Et tout ça, donc j'écris beaucoup, j'écris chaque semaine. Et je suis émerveillée de voir à quel point l'inspiration, c'est quelque chose qui nous est donné, quoi. En fait, on n'est pas tout puissant avec son stylo, avec son écran, avec son clavier. Il se passe des choses où on reçoit, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve profondément beau. C'est cette grâce à l'œuvre dans nos vies, dans la mienne et dans toutes les vies. En fait, ça, c'est quelque chose dont je voudrais pouvoir être contagieuse à ceux qui nous écoutent. Oui. Parce que c'est une bonne nouvelle et on en a besoin, en fait. Voilà, cette désespérance ambiante, il y en a marre. Il faut aussi voir le beau, le bon, le bien et nous tirer les uns vers les autres, vers le haut. Et donc, voilà, il est arrivé à moi, il a émergé et il m'a embarqué avec lui. Je me suis laissée embarquer dans ce livre, il m'a embarqué très loin. Voilà, et grande grâce pour ces éditeurs qui font, vous le disiez au tout début, un travail extraordinaire de venir sentir de quoi on a besoin et chercher les auteurs et voilà.
Anne-Laure Malher voulait réagir sur le don de science qu'elle a elle-même d'ailleurs développé.
Alors, non, j'ai pas tout à fait travaillé sur le don de science. Vous avez, je crois, sauf si j'ai raté une partie de votre réponse, est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs qui ne sont pas tout à fait au fait des définitions chrétiennes, ce que nous appelons, enfin ce qui est appelé le don de science. Donc ça, c'est une première question, simplement. Et puis, peut-être, vous parlez d'émerveillement. Comment trouver, notamment pour des gens qui n'ont pas forcément la foi ou qui ont une foi un petit peu sérieuse, comment disposer son regard justement à voir ces, à s'émerveiller, à voir ces petits cadeaux du quotidien qui sont offerts par la vie pour ceux qui n'ont pas la foi et par le Saint-Esprit pour ceux qui ont la foi et qui pensent que le Saint-Esprit sème pour eux un certain nombre de trésors dans leur quotidien. Est-ce que vous pourriez expliquer ça à nos auditeurs ?
Je vais essayer avec plaisir. Alors les dons, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et d'ailleurs, il y a très peu de choses écrites en fait. Très peu de choses dans la doctrine sociale. Voilà, il y a vraiment pas grand chose. En remontant très loin, si j'ai lu de très belles choses, mais très compliquées, Saint Bonaventure, voilà. Et du coup, moi, c'est pas du tout un traité compliqué que j'ai voulu faire.
Non, mais justement, qu'est-ce que la science...
C'est comment on en vit. Voilà,
qu'est-ce que la science, au sens... Parce qu'aujourd'hui, la science est présentée quand même comme quelque chose d'expert, il faut être un calculateur, savoir lire des études. Donc, et vous entendez des gens qui disent « Ah ben moi, je suis pas scientifique, donc je ne suis pas légitime à savoir. » Donc, qu'est-ce que le don de science, est-ce que ça suppose d'avoir fait de longues études ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Non, certainement pas. C'est un flair spirituel, si on veut utiliser
c'est
un joli
ça.
Synonyme.
Oui, c'est très
c'est
bien.
Un flair spirituel que nous avons tous, que les enfants ont énormément. C'est vraiment cette phrase, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Ce flair spirituel, nous l'avons tous, nous y avons tous accès.
Et pourquoi ? Parce qu'ils ont plus facilement, et vous le dites en début de votre ouvrage, la capacité d'émerveillement, les enfants.
Exactement, et c'est en cela que c'est vraiment que ça va vraiment bien ensemble. C'est en fait quand toutes les écailles de nos savoirs, de nos toute-puissance, de nos tentations de maîtrise, de tout faire par nous-mêmes tombent et qu'on se met dans une nouvelle forme de disposition. Mmh. Et ce don, en fait, donc il est pour tous. Il n'est pas non plus réservé qu'aux enfants ou aux gâtés de la vie ou aux simples d'esprit, pas du tout. Il est vraiment pour tous, y compris pour les savants, d'ailleurs, parce que la connaissance ouvre à toujours plus de connaissances. Et voilà, c'est quelque chose qui est positif, qui nous ouvre tout le temps sur plus grand. Donc c'est vraiment pour tous et c'est quelque chose de particulier qui nous donne plusieurs cadeaux, celui de nous aider à orienter notre vie, donc à prendre des décisions dans notre vie, sur ce qui est important, sur ce qui nous fait grandir, sur les grandes décisions de nos vies. C'est aussi une profonde source d'espérance, parce que l'émerveillement et l'espérance, et donc ce don de science, sont tout entremêlés. Et donc, c'est quelque chose qui est très en lien avec l'espérance. Et puis aussi, quelque chose qui nous donne envie de prendre soin, de servir la vie. Parce que, voilà, j'ai fait trois parties à mon livre pour que ce soit hyper simple, et il est hyper simple, je crois. Donc la merveille, qu'est-ce que l'émerveillement ? Ensuite la veille, parce que l'émerveillement nous donne envie de prendre soin de la vie et de nous, donc pour orienter notre vie. Et la troisième partie, l'éveil, au-delà des jeux de mots, ça va très bien ensemble, l'éveil vers l'espérance. Ouvrons les yeux sur toute cette force autour de nous et en nous, et sur tout ce qui est beau et qui va bien dans un monde en crise, dans un monde où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et voilà, donc c'est un petit peu ça pour résumer. Alors pour la deuxième partie de votre question, pour ceux qui n'ont pas la foi, en fait, c'est pas du tout réservé, au contraire, peut-être à ceux qui ont la foi. D'abord parce que je crois profondément que la grâce est pour tous, que ce sont comme des ondes radio partout et que de temps en temps on s'y branche, on les entend, de temps en temps on s'y branche pas, on les entend pas, notamment quand on n'a pas la foi, ça les empêche pas d'être là en fait, voilà. Et donc l'émerveillement est vraiment pour tous, y compris sans qu'on lui donne ce nom de grâce. Et même moi je suis profondément touchée par des gens qui n'ont pas du tout la foi et qui pour autant sont dans un magnifique don d'eux-mêmes, dans une quête spirituelle, parce qu'on peut ne pas avoir la foi mais être dans une quête spirituelle parce que nous sommes des êtres profondément spirituels et qui ont accès sans le savoir, sans le nommer, à tout ça et qui en sont de magnifiques témoins. Et ceux qui ont la foi, dans lequel moi j'ai la foi, on a un devoir, quoi, enfin, c'est exigeant de nommer les choses et de le partager autour de nous et d'en témoigner.
Et vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Je vous taquine.
Un petit
truc pour justement, parce que ça a été un sujet de débat lors d'une conférence. Des personnes qui n'ont pas la foi disaient oui, mais moi je ne vois pas ce merveilleux dont vous parlez agir dans ma vie. Or, je partage votre conviction que cette force invisible, cette beauté est à l'œuvre chez tous. Et malheureusement, effectivement, on insiste sur ce qui ne va pas et du coup, ça casse un petit peu les lunettes de nos amis qui ne voient plus la beauté. Alors, par exemple, on va vous poser une question personnelle. Vous, pas aujourd'hui ou hier, quel regard portez-vous sur la vie qui vous permet de voir les jolies choses? Voilà, la rencontre d'une personne, un ouvrage qui vous est donné.
Et pour compléter, est-ce que l'émerveillement, ça prend par surprise?
Alors déjà, moi, je crois pas qu'il y ait de vie qui ne connaisse l'émerveillement. Je ne crois pas. Et encore une fois, c'est parce que peut-être on le cherche là où il n'est pas. En tout cas, tout le monde peut être sensible à la beauté. Je crois que tout le monde est sensible à la beauté. La beauté, c'est quelque chose qui nous est donné. Il suffit d'ouvrir les yeux sur la nature, par exemple. L'émerveillement, il est dans une fleur, il est même dans une fleur qui sort du macadam, même dans une fleur qui sort au milieu d'une ruine ou d'un cimetière. La beauté, en fait, pour moi, elle est tellement partout que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse ne jamais connaître l'émerveillement, à moins d'être profondément plongé dans une dépression, et là c'est très triste, ou d'être tellement focalisé sur ce qui ne va pas. Mais là, du coup, il y a quelque chose de l'ordre du choix, quoi, aussi personnel. Le cynisme absolu, le désenchantement absolu, à un moment, il est décidé, quoi. C'est pas possible autrement. Enfin, je pense. Et en tout cas, je suis profondément persuadée que. Alors, il y a des jours plus durs que d'autres, hein. Il ne s'agit pas d'idolâtrer,
De tomber dans la naïveté, parce que c'est vrai qu'on fait souvent un parallèle.
Pas du tout, mais on fait souvent un parallèle, mais il suffit de regarder, en fait, des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages, je pense qu'on en aura tous ceux qui vont nous venir en tête, de personnes qui sont, par exemple, malades ou en fin de vie, ou qui ont vécu une grave épreuve, et qui ont redécouvert, en fait, par l'épreuve, cette science de la vie extraordinaire, et qui sont... Et qui écrivent des lettres et qui laissent des testaments magnifiques en disant mais goûtez la vie, quoi. Attendez pas que tout aille bien pour goûter la vie, parce que ça va jamais tout bien, c'est pas possible. Donc faut pas attendre que tout aille bien, qu'il y ait plus de mal ou de malheur dans le monde, parce que ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Et c'est vraiment ce profond message aussi de l'espérance chrétienne dont parle d'une manière extraordinaire Benoît XVI, qui nous dit le mal ne disparaîtra jamais du monde. Le bien définitivement consolidé n'existera jamais parce que l'homme est libre. Et que comme il choisit librement de faire le bien ou le mal, il ne peut pas disparaître. Et voilà, et finalement, c'est un hommage à la liberté. Voilà, donc c'est que... C'est, je ne sais pas si ma réponse...
Si, porter un regard, être libre, oui.
Elle porteuse, mais voilà, je crois vraiment que l'émerveillement cherche son chemin en chacun et qu'il faut essayer d'attraper son fil.
Et est-ce que justement l'émerveillement, c'est un acte personnel ou c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans un groupe ou de façon plus collective ?
Je crois que c'est contagieux, je crois que c'est contagieux. Et c'est... Mais d'ailleurs, on s'en rend bien compte. Quand on est, par exemple, je sais pas, en voiture, truc basique, on est 3-4, 3 sur le téléphone, un qui conduit, puis celui qui conduit va dire « Oh, regardez là-bas !» Voilà, et on va se partager quelque chose. Voilà, donc effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est à cultiver et qu'on peut se partager les uns aux autres.
De contagieux, en tout cas, peut-être aussi. De contagieux.
Je pense, comme espérance.
À qui s'adresse votre livre, Blanche Trèbe? Pourquoi vous l'avez écrit?
Alors, mon éditeur, pour m'encourager, me disait toujours « ton lecteur t'attend ». Et c'est amusant parce que quand il me disait ça, ça m'encourageait, c'est vrai, mais je me disais « je ne sais pas qui est mon lecteur ». Même si j'ai beaucoup de chance et que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages et de petits courriers. J'en ai un classeur plein, en tout cas pour mes précédents livres, en particulier « Éclat de vie ». Là, j'ai déjà reçu beaucoup de petits mots, je ne vous cache pas, c'est super touchant.
Oui, qui vont dans quel sens? De témoignages d'émerveillement ou tout autre?
Oui, vraiment, de merci en fait. En gros, de merci, vous faites du bien, quoi. On en a besoin. Surtout que je pense que dans ma manière d'aborder les sujets, j'aime être dans quelque chose d'assez réaliste, c'est-à-dire
de concret.
De concret, de quelque chose de profondément incarné. Quelque chose qui passe par nos vies et donc... ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, en fait. Donc, mon lecteur, c'est celui qui aura envie de me lire. Ça, c'est sûr. Et à qui il s'adresse? Moi, je vous ai envie de vous dire à tous, parce que j'aimerais bien en vendre beaucoup, évidemment.
Bravo.
Mais en tout cas,
les coordonnées sont sur le site internet de Radio Courtoisie.
Voilà. Il s'adresse au plus grand nombre. En tout cas, je crois qu'il s'adresse profondément à l'homme contemporain qui baigne dans une culture du cynisme et du désenchantement. Et l'homme contemporain qui veut se faire tout puissant, qui veut maîtriser la vie et qui a besoin de redécouvrir la puissance de la grâce et de reprendre sa juste place de merveille et sa juste place de créature, quoi. Voilà.
Pensez-vous qu'on peut recommander la lecture de votre ouvrage à nos amis qui sont justement un petit peu arrivés au bout de leur philosophie rationaliste, matérialiste? Est-ce qu'ils peuvent s'appuyer sur votre texte pour peut-être découvrir un petit peu l'invisible qui est à l'œuvre dans leur vie?
Et je l'espère, oui.
Voilà.
Oui.
Donc,
je crois surtout que j'ai vraiment une partie qui répond profondément à ce que vous venez d'évoquer sur le donné, sur effectivement cette vision extrêmement positiviste, matérialiste et de toute puissance qui habite profondément notre culture aujourd'hui. Voilà, où on voudrait nous faire croire que toute la société, je viens d'écrire une tribune pour La Croix qui va paraître aujourd'hui un peu là-dessus aussi, sur en fait cette culture ambiante qui veut nous faire croire que tout s'est construit que sous le joug de conditionnements sociaux tyranniques. Vous allez en parler sans doute avec Anne Troubi, que j'aime beaucoup.
Oui, parce qu'on est dans un monde violent, finalement, violent et sectaire, plein d'injonctions.
On est bourré d'injonctions. Et
parfois contradictoires.
Mais oui, contradictoires et complètement contradictoires et qui, en fait, ne nous font pas grandir et qui nous font vivre dans un monde qui n'est pas le vrai monde. Cette tribune-là, où je reviens sur la famille, voilà, c'est en réaction à quelqu'un qui vient nous expliquer qu'il faudrait opposer l'amitié et la famille.
Ah oui,
la famille.
On en parlait ce matin, philosophe. Ah, oui,
voilà, philosophe.
Vous irez lire alors avec ma tribune, j'espère.
Oui, très bien.
Je vois que en fait, ce monde-là, ces gens-là nous proposent des bulles, des bulles où tout est construit et tout est déconstruit. Mais c'est pas la vraie vie, quoi. La vraie vie, les gens, ils aiment leur famille, ils ont envie qu'elle aille bien, leur famille. Ils ont envie, voilà, bien sûr.
Ce qui les empêche pas d'aimer leurs amis non plus. Faut pas opposer.
Au contraire, évidemment. Moi, je suis émerveillée des amis que me ramènent mes enfants.
Vous ne serez peut-être pas toujours, peut-être qu'ils sont petits.
Ouais, ils sont ados déjà.
Ah bon.
Ados, mais voilà, il faut. Non, mais vraiment, La famille est aussi un lieu d'ouverture, un lieu d'échange, un lieu où on se fait grandir les uns les autres, un lieu où on s'engueule, un lieu où on se déchire, un lieu où on se transmet aussi des défauts et il faut apprendre à s'en libérer en grandissant.
C'est une vraie petite société. C'est une petite
société.
Oui,
voilà, et la plus petite société, la plus petite cellule. Et notre pays en a terriblement besoin de protéger ses foyers et ses familles. Voilà, donc je pense que je réponds un peu à cet enjeu matérialiste. On en a fait le tour, en fait.
On l'espère, en tout cas. Je voulais finir avec vous sur une partie de votre livre que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». Vous dites « Il y a dans l'échec un potentiel d'accomplissement ». Mais ce qui fait le merveilleux, vous dites que c'est la confiance dans l'esprit qui les conduit. L'espérance se rit des échecs. Alors c'est facile à dire, enfin, sans avoir de naïveté et peut-être à contre-coup. Vous avez vécu des choses dures. Hein. Je ne sais pas si vous souhaitez en parler, mais est-ce que c'est aussi ce qui vous a construit pour donner de l'espoir et de l'espérance à ceux qui nous écoutent ? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans tout ça comme une façon de mieux vivre l'échec, en fait.
Ben, je pense qu'il ne faut pas ni glorifier les épreuves, ni glorifier les échecs, ni glorifier les deuils, ni glorifier les trucs très durs. Voilà, ça reste toujours des trucs très durs. En revanche, il peut y avoir, pas forcément toujours, mais il peut y avoir quand même une leçon à en tirer, quelque chose qui vient dévier notre trajectoire et qui va laisser... une leçon, quelque chose pour nous aider à plus comprendre notre place, à plus réorienter nos choix. Donc effectivement, il y a dans l'échec un potentiel. On le voit pas forcément tout de suite. Hein. Il y a aussi un temps pour tout. Hein. Il y a un temps pour aussi avoir les boules, j'ai envie de dire.
De digérer.
Et les digérer, exactement. Et ça, c'est une expérience universelle. On voit bien quand on se retourne sur notre passé que des fois, il y a eu des virages qu'on a pris, qu'on n'avait pas envie de prendre. Et qui, au final, nous ont... Peut-être on les chérit maintenant, même, ces virages, en disant, mais finalement, heureusement, en fait. Parce que derrière, j'ai fait ça. Parce que derrière ci, parce que derrière ça. Et effectivement, moi, dans mon histoire personnelle, sur le coup, comme tout le monde, quand j'ai vécu des trucs durs, c'était dur. Et j'ai vraiment essayé d'être dans le réel de la souffrance et de tout ce que j'avais à vivre. Mais après, derrière, qu'est-ce que j'en fais, quoi ? Quelle place je donne
à ça ? On parlait d'enfant, c'est aussi... Il faut apprendre ça à l'enfant.
Beaucoup. Et c'est pour ça que voilà, je pense que ce livre il peut intéresser tout le monde parce qu'il y a des choses qui vraiment viennent toucher aussi à l'éducation, pas nommée en tant que telle, mais en tout cas sur toute la réflexion pour orienter sa vie. Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé lire quand j'étais plus jeune,
c'est ça.
que je comprends en le vivant et que j'essaye assez humblement à mettre en mots et à partager et à en témoigner, etc. Mais c'est parce que je le vis que je le comprends et je sais que beaucoup comprennent en vivant des choses comme moi et que, ben, en fait, apprenons-nous les uns les autres, on se rendra service, on gagnera peut-être du temps. En tout cas, ce que j'ai écrit, moi, je sais que j'aurais aimé le lire. Ça m'a beaucoup aidé.
Et c'est pour ça que je conseille la lecture de votre livre, Blanche Trèbe, Grâce à l'émerveillement, aux éditions Salvator, donc dans la collection La foi au cœur. Et vous aurez toutes les références sur le site de Radio Courtoisie. L'émerveillement comme un acte de résistance intérieure. Merci Blanche Trèbe pour ce merveilleux témoignage plein d'énergie et je pense d'émerveillement contagieux. Je le souhaite en tout
cas.
Merci à vous. Merci. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
À bientôt.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me me l'as dictée. Dans mes rêves, tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Merci Benoît pour cette pause musicale avec Francis Cabrel qu'on a apprécié et qui fait bien la transition avec Anne Treby. Bonjour Anne qui est avec nous par les ondes de loin. Bonjour. Vous êtes où géographiquement d'ailleurs? Je ne sais même pas.
Eh bien, je suis en Normandie.
Quelle chance. Bon, bah, très bien. Merci. Je vous ai présenté, j'ai présenté votre parcours aux auditeurs de Radio Courtoisie et du Libre Journal de la Liberté de Penser, parce qu'on vous a déjà reçu en tant que porte-parole, mais je ne pense pas me tromper en disant que vous êtes aussi à l'initiative du mouvement féminin Antigone.
Alors, pour être exact, je suis cofondatrice et présidente. C'est Isole Turan, voilà. La porte-parole, qui a écrit ce récent ouvrage avec moi.
Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie vont se dire, mais mon Dieu, maintenant, sur Radio Courtoisie, on fait des émissions sur le féminisme, au secours. Femmes, réveillez-vous, en plus, le titre de votre livre aux éditions La Nouvelle Librairie. Eh bien non, je rassure nos auditeurs de Radio Courtoisie, nous n'allons pas tomber dans le descriptif de l'homme déconstruit. Vous n'allez pas nous donner ce portrait, Anne, et c'est pour ça que je vous reçois. C'est-à-dire que vous allez nous attirer notre attention à travers votre ouvrage, qui est un je dis petit livre, pas dans un sens péjoratif, mais qui se lit vite, mais très concis sur le féminisme, et un féminisme autrement, pour en finir, et vous le dites en sous-titre, pour en finir avec les mensonges du féminisme. Voir le féminisme autrement, moi ça me fait une bonne bouffée d'air et ça me relaxe, parce qu'aujourd'hui on est pris dans une injonction, on parlait d'injonction avec notre précédente invitée Blanche Trèbe, de se dire quand on est une femme, si le féminisme c'est ce que nous présente Sandrine Rousseau, j'ai pas envie d'y adhérer, on est foutu. Et en même temps, j'ai envie de parler de féminisme. Et vous, c'est cette voie-là que vous nous ouvrez, c'est-à-dire une autre image, une autre voie du féminisme qui assume la femme comme elle est et la relation homme-femme dans leur alternité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma définition?
Tout à fait. Alors nous, justement, on a beaucoup travaillé sur cette étiquette du féminisme dont on taxe toutes les personnes qui parlent des relations homme-femme. Or, parler des relations hommes-femmes, c'est une évidence tout simplement anthropologique, politique et spirituelle, dans la mesure où ça fait partie de notre humanité, c'est même une des dimensions fondamentales de notre humanité. On est sexué, donc bien avant le féminisme, on parlait déjà des femmes, des hommes et de la relation. Et nous, voilà, on a essayé dans tout notre travail avec les Antigones de revenir un peu sur cette genèse du féminisme, de comprendre comment il s'est construit, pour pouvoir aussi parler en vérité de ces relations hommes-femmes, parce qu'il nous semblait qu'il y avait beaucoup de problèmes avec ce discours féministe ambiant.
Mais qui est un discours, je le disais, qui est un discours violent, en fait.
Allez-y, oui.
Pardon, je vous coupe. Il y a un petit décalage, pardon. C'est un discours qui, en fait, est violent, en fait, qui est sectaire, qui est radical. On n'a pas le droit de penser en marge du discours ambiant. Et bon, dans la société, les discours se sont beaucoup radicalisés. Hein. Je pense qu'on est dans une société qui oppose beaucoup les uns aux autres. Et la présidence Macron y a beaucoup contribué. Mais justement, vous, ce que vous faites, vous arrivez à garder une harmonie là-dedans et à ne pas opposer violemment un homme et une femme, ou nos rôles, ou nos définitions.
Je pense vraiment que ce qu'on fait de mal à un sexe, on le fait à l'autre, dans la mesure où les sexes sont complémentaires. Que l'humanité se construit justement autour de la rencontre sexuée, qu'elle soit la rencontre féconde qui donne naissance à un enfant, mais aussi dans toutes les dimensions de l'homme, qui est un animal donc, social et politique. Voilà, la rencontre des sexes à tous les niveaux de la société, c'est ce qui fait aussi sa fécondité, sa richesse. Et effectivement, je pense que ce qu'on oublie beaucoup dans ces discours, à la fois sur les femmes, ces discours féministes, mais aussi sur tous les discours anti-féministes parfois, c'est qu'on prend un sexe isolément de l'autre. Mais en fait, quand un sexe ne va pas bien, c'est comme dans un couple, si le mari ne va pas bien, la femme ne peut pas aller bien non plus, et les enfants non plus. Donc c'est un problème qu'il faut envisager dans sa globalité. Et arrêter en fait de d'isoler les choses et de monter un sexe contre l'autre, c'est ça qui est le plus contre-productif, je pense, dans toute cette école de pensée que peut représenter le féminisme.
Pourquoi femme réveillez-vous ? Dans quel sens vous entendez le titre de votre ouvrage aux éditions de la Nouvelle Librairie ? Pourquoi ce titre ?
Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord sur le fond d'ouvrage, parce qu'il y a beaucoup en fait Il y a beaucoup de discours féministes qui sont, à notre sens, mensongers. Un des points de départ de cet ouvrage, ça a été une réflexion qu'on avait avec Isolde de se poser la question de pourquoi, en fait, on a mené beaucoup de combats, en fait, contre des lois liberticides qui ont eu cours dernièrement. Je pense aux dernières en date qui concernent la famille, qui sont, par exemple, l'interdiction de l'instruction en famille, mais il y en a beaucoup d'autres. On a beaucoup travaillé sur cette question des libertés publiques. Et pourtant, on est dans une société où on nous rapporte, et notamment le féminisme est un des héros de cette idée selon laquelle on est plus libre aujourd'hui qu'on était hier. On est dans une société hyper libérée, qu'on est libre de tout faire, etc. Et nous, c'est ce « femme, réveillez-vous », c'était de dire, mais en fait, il y a un fossé, il y a un mensonge entre la réalité des choses, la réalité de notre vie et ce discours qu'on porte sur les femmes, sur les relations hommes-femmes et notamment que porte le féminisme. De même, après, voilà, ça se décline en plein de sous-sujets, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est pareil, on nous dit que nous sommes maîtresses de nos corps, qu'on peut faire ce qu'on veut de nos corps, qu'on est enfin libre à ce niveau-là.
Que la femme peut travailler, quitter le foyer.
De la GPA et de la location d'utérus à niveau international. Donc, ce qu'on peut faire de notre corps, non, c'est pas vrai pour un certain nombre de femmes.
Vous parlez aussi beaucoup du fait que, et c'est vrai aussi, il ne faut pas que la femme maintenant travaille hein, dans sa grande majorité. Donc, elle a quitté le foyer où elle était une ménagère et une femme, enfin une mère et une épouse, pour avoir une activité professionnelle, ce qui n'est pas forcément non plus source de libération de la femme, en fait.
C'est ça. Nous revenons beaucoup sur cette question, en fait, qui a tendance à être traitée de manière un petit peu, je trouve, généralement superficielle et un peu manichéenne. On oppose la femme au foyer à la femme qui travaille, souvent pour blâmer l'une ou l'autre. Et c'est très contre-productif dans la mesure où, en fait, ce qu'on explique aussi dans ce livre, c'est que le travail des femmes a toujours existé, mais que la nature du travail a changé. Et que ce changement dans la nature du travail a été salué énormément par les féministes et apporté par autre chose, hein, par toutes les évolutions historiques, notamment la révolution industrielle et tout ce qui l'a accompagné. Mais le fait de dire que le travail des femmes est nouveau est déjà un premier mensonge. Le fait de dire que ce travail tel qu'il est pensé actuellement est libérateur est un mensonge aussi. Mais pour pouvoir le comprendre, il faut revenir déjà sur la réalité historique du travail des femmes, comprendre qu'il y a eu plein d'autres modalités d'organisation du travail des femmes et des foyers. Il y a eu plein d'autres manières d'envisager le travail dans la société et sa place dans la société, et que on ne peut penser ce travail des femmes qu'en relation aussi avec le fait qu'elles puissent potentiellement avoir des enfants. et que ces deux dimensions de la personne humaine doivent être nécessairement coordonnées de manière juste et harmonieuse. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Ces deux dimensions qui rentrent en conflit et on finit par reléguer la vie familiale et la maternité des femmes à une sorte de hobby, que ce soit d'ailleurs pour les femmes au foyer ou les femmes qui travaillent. C'est-à-dire que dans les deux cas, on relègue la maternité à une sorte de choix personnel qui sera un choix quasiment comme la couleur de ses chaussures. On choisit d'être femme au foyer, donc il faut nécessairement qu'on en assume pleinement toutes les dimensions, qu'on soit profondément épanouie dans ce rôle-là, ce qui n'est pas vrai et ce qui n'est pas juste par rapport aux femmes qui font ce et aux couples, surtout aux familles qui font ce choix-là, parce qu'être femme au foyer, c'est pas non plus la croisière s'amuse, il faut quand même être très clair, et de même, on renvoie les femmes qui travaillent à cette réalité-là comme étant un choix libre. Et c'est encore ce mythe hein, de la libération des femmes. C'est encore cette idée selon laquelle la maternité, c'est une option, un choix, alors que non, c'est un état. C'est une réalité. Et dans tout ça, le problème, c'est qu'on crée du malheur, en fait. En propageant ce genre de mensonges, on crée du malheur parce qu'on ne permet pas aux femmes de dire leurs difficultés réelles, qu'elles soient dans l'éducation des enfants, qu'elles soient au sein de leur foyer ou qu'elles soient dans leur travail, dans leur manière de conjuguer les deux. Et on finit avec ce genre de mensonge et avec cette sorte d'idéologie en fait qui n'a plus grand rapport avec la réalité par museler la parole réelle des femmes et la réalité des problèmes qu'elles rencontrent auxquels il faudrait peut-être penser à apporter une solution.
C'est quoi les problèmes des femmes alors aujourd'hui concrètement selon vous les principaux?
Oh, il y en a beaucoup. On en évoque un certain nombre dans ce livre, mais je pense justement pour rebondir sur cette question de la maternité, j'ai publié dernièrement le 8 mars sur le site de l'étudiant, vous pouvez retrouver un article que j'ai écrit sur la question justement de la place des mères et de la maternité aujourd'hui. Et je pense que c'est une grosse difficulté pour les mères, pour donc les femmes qui sont mères, mais aussi pour les femmes qui voudraient l'être. C'est un isolement total, c'est-à-dire qu'on les renvoie à l'idée que la maternité est un choix. Et ça, c'est évidemment un mythe qui est construit par la contraception massive, l'avortement, etc. Mais la maternité n'est pas un choix. C'est-à-dire qu'on peut choisir d'avoir un enfant, désirer avoir un enfant, et que ce soit une décision de couple. Mais à partir du moment où l'enfant est là, de toute façon, que ce soit un choix ou pas, on est mère. Et ce n'est pas parce qu'il existe des moyens techniques de se débarrasser du problème qu'on ne l'est pas, déjà. Par ailleurs, c'est un état. C'est-à-dire qu'on devient mère et le fait de présenter ça comme un choix... comme un choix de consommation, quasiment, ça obitère le fait que c'est aussi un état qui vient avec son lot de difficultés, de sacrifices bien réels et auxquels, normalement, la société est censée apporter un certain nombre de réponses dans la mesure où le fait que nous ayons des enfants assure la pérennité, la stabilité de la société. C'est quand même, il y a quand même une dimension politique à cette question-là qu'il ne faut pas oublier. Mais ça, je vous renvoie peut-être à cet article qui est un peu plus détaillé sur cette question. Mais dans notre ouvrage, on évoque beaucoup d'autres mensonges. On a parlé rapidement de la question du travail des femmes. Mais il y a aussi toute cette question aussi du corps des femmes et de tout ce que le féminisme propose à cet égard. C'est-à-dire que le féminisme a applaudi dès demain la mise en place de dispositifs techniques, soi-disant pour libérer les femmes. Là, je vise particulièrement la pilule contraceptive et autres moyens de contraception et l'avortement, évidemment. Mais ça, ce sont des outils techniques qui créent du malheur, en fait. Quand on coupe les femmes de leur cycle, il y a des conséquences physiologiques, en fait. Et des conséquences physiologiques qui sont des pathologies, en fait. Des difficultés de fonctionnement au quotidien, qui peuvent être des douleurs, qui peuvent être, qu'elles soient physiques ou psychologiques, ces dispositifs techniques ne sont pas anodins, en fait. On ne castre pas chimiquement une femme sans qu'il y ait des conséquences.
Est-ce qu'elles ne sont pas assumées complètement, ces conséquences, finalement, dans une réflexion bénéfice-risque par les féministes qu'on entend aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas pris à payer tout bêtement?
Il y a une forme d'angélisme, je pense, aussi du féminisme là-dessus. Maintenant, il y a des voix qui s'élèvent pour effectivement remettre en question certains moyens de contraception comme la pilule, y compris chez les féministes. Mais bon, déjà, il y a très peu. Alors, en États-Unis, ça existe, les mouvements féministes qui remettent en question l'avortement. C'est très rare et ça n'est pas du tout le cas en France. Mais toute cette dimension de libération des femmes par la technique, moi je le vois quand même comme un commun de beaucoup de mouvements féministes, aussi différents puissent-ils être. Et je pense que c'est une erreur fondamentale, parce que c'est vraiment des choses qui sont génératrices de malheur. On peut prendre aussi l'exemple de la PMA. Aujourd'hui, nos sociétés présentent la PMA comme étant la solution à tous les problèmes d'infertilité. Et c'est d'abord un moyen de masquer le problème réel, qui est quand même l'infertilité massive et croissante des populations. Donc là, il y a quand même un enjeu politique majeur et qui n'est absolument pas discuté par nos responsables politiques et qui est pourtant très grave. Je veux dire, quand les gens arrivent dans un parcours de PMA, c'est que déjà, il y a eu beaucoup de souffrance en amont. C'est déjà qu'il y a eu un diagnostic d'infertilité. On imagine les parcours, c'est beaucoup de souffrance déjà. Et ensuite, quand on en arrive aux techniques des PMA, c'est là où il y a mensonge dans les techniques. C'est que ces techniques-là, toutes techniques confondues, Blanche Trèves en a peut-être parlé, hein, c'est seulement 17% de réussite. Et avec certaines techniques, ça tombe à 10% de réussite, sachant qu'il faut encore être éligible à la PMA. Et par ailleurs, quand on y a recours, quand bien même il y a succès de la PMA, on peut permettre qu'un couple ait un enfant, mais dans aucun cas, ces techniques ne restaurent leur fertilité. Voilà. C'est des techniques qui sont extrêmement stressantes et difficiles à la fois pour les couples, hein, émotionnellement, qui les mettent à rude épreuve, mais qui sont aussi éprouvantes pour le corps des femmes. Une stimulation ovarienne, c'est quand même une opération qui est extrêmement risquée, voilà, dans laquelle il peut y avoir des effets secondaires graves. Et ça, on le dit pas assez, en fait. Ça, on le dit pas assez, et ça, les féministes ne nous disent pas.
Alors là, on a parlé beaucoup des femmes. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler des hommes. Parce que forcément, c'est le miroir de ce que vous venez d'évoquer. Quelle place a l'homme aujourd'hui dans cette mouvance féministe assez radicale, sans aller jusqu'à lui demander de se déconstruire? Mais j'ai beaucoup pensé aux hommes en lisant vos livres, ce qui peut paraître paradoxal, mais qui l'est pas. Être un jeune homme aujourd'hui, être un homme, ça n'a rien de simple, en fait, pour trouver sa place. Par exemple, je pense qu'il n'y a pas de... Pour les hommes, de... Quand on éduque des garçons, vous avez peut-être des petits garçons, en tout cas moi j'en ai, maintenant oui, ils sont devenus plus grands, mais voilà. De figure de référence pour un homme, on ne va pas lui dire, alors peut-être qu'on lui a trop dit, tu seras un héros, ou tu seras fort, ou tu seras un guerrier, ou lis telle biographie, etc. Je trouve que l'image de l'homme dans sa construction actuelle est dans un flou, et qui répond finalement à cette construction féministe assez radicale.
Oui, je suis assez d'accord avec vous dans la mesure où une des difficultés du féminisme, ça a été justement de positionner les femmes contre les hommes et de faire des hommes les ennemis et les responsables de tous les maux des femmes. C'est-à-dire que dans le discours ambiant, en fait, quand on est un homme, on est forcément l'oppresseur, on est forcément le patron qui oppresse tous ses employés, femmes y compris, le patron qui discrimine, on est le père de famille potentiellement violent, on est le violeur en puissance, on est machiste, on est tout ça. Et les hommes se retrouvent contraints à une sorte d'auto-justification permanente qui est malsaine. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Pour régler des exceptions, comme par exemple les violences intrafamiliales. Les féministes ont participé à la destruction, et ça on en parle aussi dans le livre, ont participé à la destruction de l'autorité du père de famille.
Voilà.
Et de son statut légal.
Le diable, c'est le patriarcat et le père de famille, voilà, pour les féministes.
Voilà. Mais la difficulté, c'est qu'il y a un problème d'ordre là-dedans. Les violences familiales, elles existent. Et ça, les féministes avaient raison d'en parler, parce que c'est un problème.
Parlons du féminicide, rien que ce terme.
Non, mais et d'ailleurs, on a des articles là-dessus aussi sur notre site, hein, sur le féminicide, qui est un mot qu'il ne faut pas utiliser, qu'il faut combattre à tout prix, parce qu'il y a une charge idéologique énorme. Mais en fait, elles ont signé la mort du père pour tous, en ne comprenant pas que, en fait, c'est une exception. La règle, normalement, c'est la confiance des différents membres d'une société les uns dans les autres, et la confiance et la solidarité réciproque et mutuelle entre les membres d'une famille. Donc, normalement, une société doit partir du principe que le père de famille est bon et responsable, et la mère de famille également. on ne peut pas partir du principe, comme c'est le cas à l'heure actuelle, et là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on dit dans le livre, c'est-à-dire que le féminisme, il y a effectivement une grande diversité dans ces courants, et la voix dominante a été portée, les voix qui sont devenues dominantes, plutôt, sont celles qui ont fait écho aussi à l'ère du temps. Et effectivement, ça c'était toute une réflexion d'auteurs comme Foucault et Derrida de dire que la famille était une structure d'oppression. Et ça, effectivement, tous les courants féministes du moment ont fait écho à ça. Et c'est l'idée qui s'est imposée comme étant une vérité absolue dans toute cette école de pensée féministe. Et ça, c'est faux. C'est profondément faux. Et ça nuit énormément, et je pense là plus aux hommes encore qu'aux femmes, parce que ça les prive justement d'un leur rôle symbolique et politique majeur, qui est celui de responsable, de chef de famille. Genre on est allé quand même jusqu'à biffer la mention supprimée en droit, la mention...
bon père de famille.
En bon père de famille.
La gestion du bon père de famille.
Voilà. Et donc on est allé jusqu'à piétiner les symboles. C'est-à-dire que ça ne renvoyait à aucune personne, cette mention-là. Hein. C'était vraiment une image, un symbole. Et on est allé jusqu'à piétiner ce symbole-là. C'est extrêmement grave. Et par ailleurs, ça c'est un autre grand sujet qu'on évoque, c'est que le fait d'avoir privé les hommes de cette place-là, qui était celle que leur avait accordée le politique, et qui correspond à la répartition symbolique hein, traditionnelle des hommes entre les hommes et les femmes, a laissé la place à l'État et à la toute-puissance de l'État.
Ah, c'est ça, je voulais en revenir à cette notion qui est importante dans votre livre et qui m'a surpris, mais qui en fait est vraie dans la pratique, hein, pour tous ceux qui ont au moins qui ont des enfants d'ailleurs aussi, mais c'est que, en fait, vous dites qu'on a abandonné l'idée de patriarcat et on a nié à l'homme sa place de père de famille pour finalement transposer cette autorité à l'État. Pour mes mots, par exemple, l'État prend de plus en plus de place dans la gestion de votre famille. Vous recevez régulièrement, si vous êtes parent, des courriers de la CPM qui vous disent bah, « Votre enfant a 6 ans, il est temps de lui faire un petit contrôle chez le dentiste » ou des choses comme ça qui finalement font que l'État s'insère dans votre gestion, dans votre éducation et dans votre cellule familiale à la place finalement du père.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord, ce ne sont pas nos mots, hein, je reprends ceux d'Elisabeth Badinter,
oui.
qui est quand même pas tout à fait des mêmes opinions que moi, mais c'est elle-même qui l'écrit dans l'un et l'autre, hein, que c'est une situation, je crois, qui est présente dans le livre, hein, mais que l'État a progressivement pris la place du père, elle s'en félicite. Hein. Moi, je trouve ça beaucoup plus triste et dangereux, mais a progressivement pris la place du père à travers un certain nombre de personnages de la vie sociale et politique, comme le juge pour enfants, l'assistant social, dans une certaine mesure voilà. Aussi le médecin. Et donc, il y a une réflexion qu'on trouve chez un autre auteur intéressant, c'est Christopher Lasch, qui répond à celle-là. Et qui parle d'un moment historique un peu postérieur. Lui, il parle de l'Amérique des années 60 et de toute cette ambiance en fait de la vie de banlieue, on va dire, dans laquelle les femmes étaient assez malheureuses finalement et les hommes aussi, il faut le dire, qui a donné naissance au féminisme. Et il parle justement de cette du fait qu'après avoir écrasé le père. Les féministes ont pensé que du coup la mère prendrait la place et l'hégémonie au sein de la famille. Mais c'est faux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce consortium d'experts desquels les femmes se sont entourées ont fini par prendre la place. C'est-à-dire que ce n'est pas la mère entourée de son consortium d'experts qui domine la famille maintenant que le père de famille n'a plus son mot à dire. Ce sont les experts, ce sont tous les organes étatiques qui décident, et les parents ne sont plus l'un et l'autre que des exécutants. C'est-à-dire que l'État et les campagnes de santé publique qui nous envoient à la limite des courriers pour nous rappeler tel ou tel rendez-vous médical, ça peut n'être que des propositions, ça peut être des propositions très saines. De même qu'il n'est pas aberrant que l'État, que les acteurs publics puissent avoir un discours sur l'éducation des enfants. Et il est même sain qu'il y ait un débat public autour de ces questions-là. Le problème, c'est qu'on en arrive à une situation où c'est l'État qui décide et où il y a carrément une dimension coercitive dans un certain nombre de choix, et même quasiment dans tous nos choix éducatifs.
Et notamment...
Le choix d'une école, nous ne sommes pas libres du choix d'une école, hein, que ce soit par pression financière ou à cause de ces lois, comme par exemple celle qui interdit l'instruction en famille.
Et ça vient aussi, j'en viens, là vous parliez de l'institution judiciaire, on a aujourd'hui... plus de 60% des enfants qui naissent hors mariage, donc en dehors d'une cellule familiale, on va dire, stable, je prends le risque de le dire. Et donc, beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, ou de séparations tout court, qui plus est quand il n'y a pas eu mariage. Et donc, la gestion des enfants, la gestion de la famille va quasiment être déléguée et confiée au juge pour enfants, en fait, qui va prendre beaucoup de place. Et ça, c'est pas anodin. Mais l'un découle de l'autre, ou c'est parce que la société, finalement, s'est fractionnée comme ça qu'on pourrait voir, dans cette place que prend l'État, l'État-providence aussi, qui vous fait un marchepied, qui vous aide, qui vous entoure, d'une façon plus ou moins bienveillante. Mais pour me faire l'avocat du diable, ça peut être aussi vu comme ça.
C'est-à-dire que c'est une dynamique qui fonctionne dans les deux sens, en fait, et qui chacun des deux côtés de cette affaire nourrit l'autre. Parce qu'on a détruit l'autorité du père de famille, on a pu laisser la place à tous ces acteurs. Ces acteurs, ils sont nécessaires, parce qu'il y a un moment où, l'État a une responsabilité vis-à-vis de ses enfants. De même qu'il est nécessaire de prévoir les cas et d'anticiper en droit les cas de violences familiales, de maltraitance, etc. Sauf que tout ça doit rester des exceptions. Le problème, c'est que ça a été étendu à tous. Et c'est là où ça devient extrêmement malsain. Et comment ça a été étendu à tous ? Ça a été étendu à tous, justement, en détruisant pièce par pièce tout ce qu'était le couple et surtout le mariage.
Voilà.
Et donc, avec le statut de père et de mère de famille dans le mariage. Pourquoi est-ce que c'est différent du point de vue politique un mariage par rapport à des gens qui ont un enfant hors mariage ? Le politique n'est pas là pour juger les sentiments des uns et des autres, la valeur de leur union, la force de leur amour. Et c'est là où il y a une confusion énorme à l'heure actuelle. C'est qu'on considère que le discours ambiant voudrait que si on valorise les gens qui sont mariés, c'est qu'on accorde une plus grande valeur à leur union, une plus grande valeur à leur amour. Oui. Mais c'est faux. Il y a des gens qui sont en couple libre, en tout ce que vous voulez, qui s'aiment mieux que des gens mariés. Ce n'est pas la question. Mais le politique, pour fonctionner, a besoin de stabilité, a besoin d'ordre et a besoin de garanties. Donc, il est évident qu'il a besoin d'une structure légale et il a besoin aussi d'en appeler à l'engagement de chacun et à leur responsabilité. C'est là où ce qui est vicié aussi depuis un certain temps sur le mariage, c'est la facilitation du divorce, qui rend les choses, qui rend cette institution beaucoup plus précaire et qui la sort justement de ce rôle-là. Normalement, le mariage, c'est la prolongation politique dans les institutions, de la fécondité naturelle du couple homme-femme. Pourquoi on a besoin du mariage ? Parce que le petit homme, il ne sort pas tout cuit du ventre de sa mère, prêt à marcher, parler et devenir un bon citoyen. Il faut un cadre pour son éducation, il faut assurer un cadre stable, pérenne, et dans lequel on suppose la responsabilité, par défaut la responsabilité des parents, et on suppose par défaut leur bienveillance et un minimum d'amour. Mais ça, en fait, on ne peut en avoir la garantie du point de vue du politique que parce qu'il y a engagement public, voilà, et qu'il y a prise de responsabilité du point de vue politique. D'où l'importance aussi de valoriser le mariage en tant qu'institution politique. Ce n'est pas un jugement de valeur, encore une fois, mais de même que c'est cette réflexion politique qui justifie le fait d'accorder, par exemple, des avantages fiscaux, des avantages financiers aux familles qui sont mariées par rapport à celles qui ne sont pas. On avait détaillé, un texte que j'avais signé dans un ouvrage collectif lancé par Academia Christiana. On avait écrit tout un texte avec des propositions concrètes sur la question du mariage de la famille plus globalement, dans lesquelles on souhaitait qu'il y ait une différence faite entre toutes les aides et les allocations faites aux couples mariés, parce que ils sont le cadre idéal et le plus stable a priori pour l'éducation des enfants et donc la pérennité, la stabilité de la société, les aides qui sont assorties au fait d'avoir un enfant, quel que soit le statut marital des parents, puisque effectivement l'éducation d'un enfant représente un coût et toujours, quel que soit le statut des parents, un espoir pour la société et pour sa pérennité. Et même si voilà, l'État n'a pas de garantie de stabilité du couple derrière, et des aides spécifiques pour les enfants dont les parents ont des difficultés matérielles. Voilà. Et il me semble important de distinguer les trois, parce qu'elles ne sont pas accordées, ces aides-là ne devraient pas être accordées pour les mêmes raisons.
Alors, on arrive à la fin de notre entretien, mais je voulais quand même évoquer quelque chose. Moi, je suis juste spectatrice, bon, même si je suis une femme et mère de fille, mais je suis spectatrice et je vais peut-être vous donner un argument qui est naïf, mais allons-y, il me titille et j'ai envie de vous en parler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais être à contre-courant de tout ce qui se dit, les droits des femmes régressent. Et ils régressent en grande partie du fait d'une immigration très forte en France et en Europe, d'une immigration qui est d'origine africaine notamment et musulmane de religion, qui ne fait pas une place, on va dire, très glorieuse à la femme dans la vie de tous les jours. J'ai un exemple en tête, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, la princesse de Galles, Catherine Middleton, c'est ça, a visité un centre musulman, une mosquée, je ne sais plus, à Londres. Donc je tiens à dire que c'était en Grande-Bretagne. À cette occasion, elle a respecté les coutumes puisqu'elle s'est voilée, qu'elle a enlevé ses chaussures et elle a tendu la main à un responsable musulman qui, toutes les télés l'ont vu, a refusé de lui serrer la main, a mis la main sur le cœur pour lui dire que non, ce n'était pas... ce n'était pas sa tradition, sa coutume, appelez ça comme vous voulez. Moi, quand je vois ces images, nous sommes en 2023, je me sens profondément triste pour la femme que dans ce geste symbolique, alors qu'elle a fait un effort, l'effort de se mettre en tradition, hein, se voiler, retirer ses chaussures parce qu'elle rentrait dans un centre musulman, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez. Et le fait qu'elle tende la main et qu'on la laisse ballante et qu'on estime sans réaction d'aucun féministe hein, à ce jour, hein, je vous en parle aujourd'hui, ça n'a pas fait la une des médias, c'est profondément blessant dans sa façon de se comporter vis-à-vis des femmes, d'autant que nous sommes à Londres, donc en Angleterre. Cet exemple là, vous avez parlé dans votre site internet des harcèlements de rue, on a peu parlé des viols à Cologne par exemple, mais moi je pense qu'au contraire il y a une espèce d'indulgence de ce féministe qui pourtant par ailleurs est hyper violent vis-à-vis de ces nouvelles traditions qui s'exportent chez nous et en Europe plus globalement et par rapport à ça, alors par contre là on n'entend plus personne, il n'y a plus de féminisme pour rappeler que la femme doit être traitée d'égal à égal vis-à-vis de l'homme, notamment dans l'exemple que je viens de vous donner. Quelle est votre réaction par rapport à ce deux poids, deux mesures qui est flagrant ?
Ah bah déjà la colère.
Oui, je la partage.
Effectivement, c'est un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises et je pense qu'il y a énormément de dimensions à ce sujet-là qui sont très peu abordées par les féministes. Et cette histoire du silence des féministes est déjà coupable et effectivement nous jette dans la plus grande colère. Il s'explique aussi historiquement par le fait que les féministes ont fait le choix d'adopter tout ce courant de l'intersectionnalité et aujourd'hui le woke, où en fait elles se sont accoquinées avec toutes les formes de minorités et finalement ce sont parfois les combats de certaines minorités qui passent avant la défense de vrais sujets, de réalités concrètes dont souffrent les femmes. Donc en fait, la stratégie politique a pris le pas sur la vérité des choses. Et c'est là où vraiment je pense qu'il y a un enjeu terrible dans le féminisme, c'est que c'est un courant de pensée qui a été ultra politique dès le départ et qui voit ses objectifs avant d'être dans une recherche de vérité. Pour en revenir à cette question-là, la question des droits des femmes, je pense que on est vraiment dans une société où oui, il y a plus de malheurs pour les femmes aujourd'hui qu'il y en avait hier. Je le pense réellement, même si les femmes d'hier avaient énormément de problèmes qui étaient bien réels. Mais on est sur une pente glissante, notamment à cause de ce problème d'immigration. Et je pense qu'on le regarde par le mauvais bout de la lorgnette en se tirant des balles dans le pied. Je prends la question des droits qu'on évoque dans ce livre, où en fait, on pour corroborer cette idée qu'on est très libre et que on vit dans une société super géniale et très très libre pour les femmes et qu'il faut avancer sur ce chemin de liberté, eh bien, on essaie de collectionner des lois qui nous garantissent un droit à ceci, un droit à cela, un droit à truc, un droit à mûche. Mais dans la réalité des faits, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours mettre un droit à ne pas se faire violer, un droit à se promener librement sur tel ou tel trottoir, que ça ne changerait rien à la réalité des femmes qui, dans certains quartiers, ne peuvent pas sortir seules le soir.
Oui.
Voilà. Donc, ce combat pour les droits des femmes, il y a un moment où il est profondément fallacieux.
Oui.
Ce qu'il faut vérifier, c'est d'abord la réalité vécue des femmes en France et les problèmes, et qu'est-ce qui leur cause des problèmes et qui est-ce qui leur cause des problèmes. On a identifié, nous, un certain nombre de problèmes et l'immigration massive en est un. Parce qu'effectivement, il y a l'importation sur notre sol de codes culturels qui ne sont pas les nôtres. Et pour l'instant, pour s'en préserver, parce que les féministes ne veulent pas parler des de questions d'immigration, et bien, comme ce qu'on fait, on collectionne des petits droits à et, et des...
Mais il y a une hypocrisie derrière tout ça.
On fait le silence sur d'autres.
Incroyable. Comment ? C'est une hypocrisie vis-à-vis de tout ça. En fait, c'est du féminisme, mais comme arme politique, parce que c'est presque... Ça me remet en cause la sincérité, en fait, de leur mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas les droits des femmes qui est au centre.
Pour moi, c'est une des preuves de l'impasse en fait intellectuelle et des erreurs philosophiques et politiques dans lesquelles elles sont. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont mises face à la limite de leur raisonnement quand on se retrouve avec des situations comme le viol de Cologne, parce que effectivement, on ne peut pas défendre en fait une immigration massive et défendre aussi la situation politique qu'on a toujours défendue en Europe et qui a été quand même un étendard civilisationnel. Qui est cette organisation d'une saine mixité entre les hommes et les femmes, avec une égalité devant le droit. Et effectivement, là, il y a vraiment une incohérence totale, et je pense qu'elles sont beaucoup à être en difficulté. Mais on le voit par rapport aux questions de transsexualité aujourd'hui. Il y a Dora Mouto et Marguerite Stern qui ont fait un virage quand même à 360 sur ces questions de féminisme à cause justement de cette question du transsexualisme parce que en fait les transsexuels en étaient venus à remettre en question la féminité elle-même et ce qu'elles étaient en tant que femmes. Et donc on voit justement l'intérêt de ces situations-là, c'est que ça pousse aussi le raisonnement jusqu'à ses limites. Et ça va nous permettre de sortir un petit peu de ces mensonges-là. La difficulté, c'est que pour l'instant, on ne se défend de ces situations-là qu'avec des lois qui finissent par nous revenir, par nous nuire. Je pense à la loi sur le voile, mais je pense aussi à une proposition qui n'avait pas d'amendement par Aurore Berger qui avait été faite pour à l'occasion, je crois, de la loi contre les... Je ne trouve plus, bon, c'est une proposition qui était contre le voile des fillettes, officiellement. Mmh. C'était comme ça que ça avait été présenté dans les médias. La réalité du texte, c'est que c'était une loi qui visait à pénaliser toute tenue vestimentaire, les parents pour toute tenue vestimentaire des fillettes qui contreviendrait à l'égalité homme-femme. Sauf que, étant donné les définitions actuelles dans le droit menées par nos amis féministes de l'égalité homme-femme, etc., c'était quelque chose qui était amené à se retourner contre la population générale et pas seulement contre les populations musulmanes les plus radicales, contre lesquelles, il faut quand même être très honnête, aucun policier n'osera faire valoir la réalité du droit. Hein, ouais. Et par contre, c'est-à-dire que qui est l'arbitre dans ces cas-là, c'est encore une fois l'État ou ses représentants à travers l'école, le médecin, l'assistante sociale, etc., qui aurait pu, avec cet amendement, dire bah, « Écoutez, madame, il faudrait peut-être penser à mettre des pantalons une fois de temps en temps à votre fillette, hein, la mettre en jupe tout le temps, c'est un petit peu arriéré tout ça. Hein » Vous ne seriez pas un petit peu sectaire, vous, par hasard?
Bon, et merci, Anne Trébi. On va être obligé de...
Oui,
de...
je m'emballe.
Mais oui, mais vous avez bien raison, parce que c'est un sujet emballant et vous êtes passionnante à écouter. Merci. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que votre livre s'appelle « Femmes, réveillez-vous ». Pour en finir avec les mensonges du féminisme, on a bien compris, donc Anne Trébi et Isol Turan, c'est ça, je dis bien
Turan.
Je vous conseille à tous la lecture et puis on aura l'occasion de se reparler sur des sujets qui, malheureusement, j'ai envie de dire, seront toujours d'actualité d'ici à quelques mois. Merci à vous, en tout cas, de votre intervention.
Merci pour votre invitation.
Mais je vous en prie, à bientôt. On enchaîne directement avec notre dernier invité qui s'appelle Sylvain Durin. Bonjour Sylvain. Ah, on me signale qu'il y a un bobino, donc je laisse la parole à Benoît. Pardon.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bonjour Sylvain Durin, merci d'être avec nous et merci d'avoir patienté. Mais voyez, quand on parle de féminisme, on a du mal à nous arrêter avec Anne-Laure Malher qui est aussi en studio à côté de moi. Bonjour. Alors, Sylvain.
C'est normal. Bonjour à toutes les deux et bonjour à vos auditeurs.
Merci à vous. Alors Sylvain Durin, on vous connaît normalement sur Radio Courtoisie, notamment dans le Libre Journal de la Liberté de Penser. Vous avez plusieurs casquettes. Vous avez une maison d'édition qui s'appelle les éditions du Verbe Haut. Et c'est aussi pour cette seconde casquette que je vous ai demandé d'intervenir dans notre Libre Journal de la Liberté de Penser. Vous êtes libraire à Nancy, la librairie Les Deux Cités à Nancy, qui a fait...
Absolument.
Parler d'elle récemment, notamment parce que vous avez été sous le feu d'attaques de milices d'extrême gauche, mais d'attaques physiques et violentes. Et je voulais vous donner la parole pour que vous nous, d'abord vous nous disiez concrètement comment ça s'est passé. Et à nos auditeurs de Radio Courtoisie qui n'ont pas forcément été mis au courant, même si l'information a été pas mal relayée, et tant mieux. Et comment ça se passe quand on est une librairie qui n'est pas du bon côté de la pensée actuelle, on va dire, et qui physiquement se fait attaquer comme vous l'avez été récemment?
En réalité, il y a eu plusieurs étapes depuis 3 semaines, 1 mois. Les étapes les plus visibles sont les dernières, mais les premières étapes étaient importantes. C'était par exemple la mairie qui nous empêchait par courrier recommandé de nous étaler devant notre vitrine, c'est-à-dire pas de livres et pas de présentoir.
Mais qu'est-ce que c'est que ces livres, Sylvain ? Qu'est-ce qu'on vous reproche ? Parlons du début, Sylvain Durin.
Oui, j'aimerais bien que notre bon maire de Nancy, Mathieu Klein, vienne nous expliquer ça, puisqu'il nous avait dit que nous proposions de la littérature non démocrate.
Ah.
Alors j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire.
Oula.
Et pour son information, chaque livre interdit en France, par définition, n'est pas vendable puisqu'il n'est pas achetable. Donc tout ça est ridicule. Mais en tout cas, on a eu cette interdiction-là de nous étaler devant notre vitrine.
Mais c'est quoi vos livres ? Qu'est-ce que vous vendez, Sylvain, alors dans votre librairie ? Donnez-nous des exemples.
notre dernière grosse vente, c'était le livre de Laurent Berton, par exemple.
Oui, qu'on a reçu dans le Libre Journal de la Liberté de Penser, bien sûr.
Absolument.
Ça, c'est pas bien, d'accord.
C'était un succès incroyable. Il avait signé 400 livres, je crois, en 4 heures. Mmh. Donc, c'était énorme. Mmh. On a du régionalisme, alors il faudrait voir en quoi ça les gêne. On a sans doute des choses qui les gênent dans la religion, parce qu'on parle beaucoup de christianisme, catholicisme.
Quelle horreur.
On a raison. Voilà, c'est une horreur absolue. C'est une horreur absolue. On a de la littérature, on a du pays, on a beaucoup de choses. On a du Sylvain Tesson. Bon, c'est même un peu mainstream, Sylvain Tesson, normalement. Donc, ouais. Il ne devrait pas y avoir de problème. On a du science politique, on a du Mathieu Bocoté, on a du Eugénie Bastier, on a des gens comme ça.
Ah mais oui, je comprends.
Donc, ne sont jamais rentrés en fait dans notre librairie.
Vous n'avez pas de Bernard-Henri Lévy pour vous racheter un petit peu là, Sylvain ?
Oui, j'ai du Bernard-Henri Lévy, figurez-vous.
Bon.
On est un peu taquin parfois dans les livres d'occasion.
D'accord. Donc, c'est déjà pas mal en livre d'occasion.
Je me permets
et
juste
une
remarque technique, cher Sylvain Durin. Nous avons un son un peu délicat qui arrive chez nous. Donc, est-ce que vous êtes en zone difficile ou voilà, parce que votre propos est un tout petit peu haché. Et je voulais.
Je vous entends assez mal, moi aussi. Ouais. Mais
d'accord.
Pourtant, je suis à Nancy.
D'accord. Bon, ça fait partie.
Ça
fait partie de la météo joyeuse.
Alors, racontez-nous comment on traite une librairie qui ose vendre des livres qui sont pourtant parfaitement...
Vous avez même des livres, puisque j'ai eu le bonheur de découvrir votre caverne d'Ali Baba. Vous avez donc, chers auditeurs de Radio Courtoisie, qui avaient la chance d'être à proximité de cette librairie, allez-y.
D'abord, à Nancy,
elle est très bien placée.
Librairie Les Deux Cités.
Vous pouvez aller acheter quelques livres chez Sylvain Durin et avoir le bonheur de vous installer pas très loin à une terrasse de café pour le dévorer immédiatement. Et puis, dans un cadre magnifique, évidemment, on trouve de tout, effectivement, du régional. Vous avez des livres écolos, donc je trouve que nos amis gauchistes devraient être assez heureux d'avoir une librairie qui vend des conseils qui relèvent de l'écologie, de l'autonomisme. Alors, C'est en fait vous Absolument. Êtes voilà oui. vous, on pourrait dire presque survivaliste. Alors là vous devenez vous rentrez quand même vous basculez du côté de l'ombre, mais vous avez des livres d'économie, vous organisez des débats qui sont bien menés, donc instructifs. Voilà, qu'est-ce qui est non démocrate chez vous? Je ne situe pas très bien.
Il faut quand même dire que le maire est PS, hein, c'est ça, un parti socialiste, c'est ça?
Le maire de oui, LR. C'était le porte-parole d'Anne Hidalgo aux dernières élections présidentielles.
Quelle chance.
C'est lui, on peut dire, qui a inventé le concept de la NUPES à Nancy.
Bon.
Puisque c'est lui qui avait rassemblé les woke, les écolos un peu extrêmes, etc. Ouais. Le PS et qui avait fondé la. Qui fondent encore aujourd'hui le conseil municipal.
Ok, donc, maintenant que le décor est dressé, dites-nous alors ce qui vous fait et qu'est-ce que vous subissez de la part de cette gauche sectaire.
Donc on a eu ça, donc il faut se mettre dans le contexte, on est à 100 mètres de la place Stanislas, entouré de restaurants. Donc, quand on n'a pas notre présentoir ni nos livres à l'extérieur, si on ne nous connaît pas, on ne nous voit pas, on est vraiment invisibilisé avec les terrasses, etc. Donc ça peut paraître anodin, mais pour nous c'était tout de même assez grave. Donc c'est absolument illégal de faire ça, donc on a des recours en justice, mais ça va prendre des mois, voire des années. Ensuite, on a eu un jeudi matin, le jeudi 1er mars, quand je me suis rendu à la librairie pour ouvrir, je vois un tag Rose Sufia qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Alors je me suis dit, c'est une attaque des féministes hystériques, donc ça rejoint un peu votre sujet de la précédente intervenante. Et puis non, un voisin me dit, attention, vous avez quand même un tag du Hezbollah sur la vitrine. Alors moi, le rose fuchsia Hezbollah, j'ai pas tout de suite fait le rapprochement. Mmh. Donc je suis retourné devant la vitrine et effectivement, c'était marqué « Vive le Hezbollah ».
Mmh.
Donc là, on rentre dans autre chose.
Mmh.
C'est un tag à caractère terroriste en réalité. Mmh. Donc il faut appeler la police, il y a la police scientifique qui vient, qui enregistre les empreintes,
d'accord.
etc. Et normalement, moi je fais un appel à un juriste qui pourrait nous écouter. J'imagine que normalement, le maire, le ministre de la Culture et le ministre de l'Intérieur doivent quand même se mobiliser. On est quand même dans un pays qui a eu des prêtres décapités, enfin pas décapités mais assassinés, des profs décapités, etc. Donc je pense que ces attaques doivent être prises au sérieux, mais pour l'instant ça fait 15 jours, ça fera 15 jours demain, toujours rien.
C'est-à-dire que vous avez porté plainte, c'est ça, Sylvain? Vous avez porté plainte?
Les plaintes sont évidemment déposées, elles ont été déposées le lendemain ou le surlendemain. On a l'habitude, on a déposé plus de 20 plaintes en 2 ans et demi d'existence, qu'on connaît les lieux maintenant pour faire ça. Et puis, la semaine d'après, donc les 7 et 8 mars, nous avons été attaqués, cette fois-ci par les Black Blocs, les Antifa, l'extrême gauche de Nancy, en marge des manifestations contre la réforme de la retraite à 64 ans. Donc là, c'est 30 personnes devant la librairie. Donc évidemment, c'est fermé, parce que plus personne ne peut rentrer. Heureusement, il n'y avait pas forcément de personnes âgées ou de bébés ou autres à l'intérieur de la librairie, parce que ça provoque des gaz lacrymogènes, évidemment, puisque la police fait son travail. Donc vous avez 30 personnes avec des fumigènes qui crient fascistes, etc.
Il y a des images sur les réseaux sociaux pour nos auditeurs qui veulent aller voir, parce que c'est quand même...
Exactement.
Vous étiez à l'intérieur de la librairie au moment de ces attaques, Sylvain Durin?
Alors moi, personnellement, je n'y étais pas, mais un de nos amis, Anselme, que je salue, était présent sur place, et c'est lui qui a pu filmer et mettre ça sur les réseaux sociaux. Et ça a été d'ailleurs repris très amicalement par Mathieu Bock-Côté dans une émission sur CNews, qui nous a soutenus. Et je l'en remercie encore une fois publiquement, parce que en fait, ils nous ont aussi cassé la caméra, enfin dégradé la caméra. Et l'autre chose qui est très grave pour nous, c'est que notre prestataire de site internet nous a lâchés parce qu'il a subi des pressions. Donc nous n'avons plus de site internet.
Pourquoi? C'est quoi les pressions?
Les pressions, c'est que comme on vend du Julien Rochdy, du Oberton, des gens qui sont considérés, du Bernard Lugan, des gens qui sont considérés comme d'extrême droite, le prestataire nous a envoyé pas recommandé également sa volonté de ne plus travailler avec nous, donc nous n'avons plus de site, il est en reconstruction actuellement, et donc nous sommes là obligés, parce qu'on est pris à la gorge, on ne voulait pas le faire, mais on est obligés, on a lancé une campagne de dons.
D'accord.
Parce qu'il faut qu'on puisse se repayer un site internet.
Oui.
Ils ont également volé un téléphone pendant toute cette période-là, donc il faut se racheter un téléphone, etc. On repart quasiment à zéro là actuellement. Donc on a lancé cette campagne de dons. Donc j'invite les gens à aller sur les réseaux sociaux, vous trouverez l'adresse. Donc on est en partenariat avec une association qui nous aide.
Allez-y, dites-nous comment on peut faire pour vous aider. Profitez de l'antenne, Sylvain Durin.
Vous pouvez directement envoyer vos chèques au 6 Grande Rue, 54 000 Nancy. Sans aucun problème, ou pour ceux qui veulent le faire en ligne, c'est sur les sites Hello Asso, et le nom de l'association, c'est Lecteur Lorrain.
L'acteur Laurent, d'accord.
Voilà, exactement. Donc si les gens veulent l'adresse directement, tout ça est en première page de tous nos réseaux sociaux, donc vous trouverez ça assez rapidement. Sinon, par voie postale, au 6 Grande Rue, à Nancy, 54 000 Nancy.
Ça veut dire, cher Sylvain, que pour l'instant, nous ne pouvons plus commander directement sur le site de votre librairie ?
Non, exactement, on n'a plus
donc vous perdez ça.
On perd ça, c'est quand même 30 à 40% du chiffre d'affaires journalier.
Est-ce que...
Les gens qui commencent à se réorganiser et qui nous envoient un courrier, je voudrais tel livre avec, le chèque, avec le chèque dans le courrier.
D'accord.
Donc ça, pour nous, c'est très bien. Et ça ne remplace pas...
Est-ce que vous n'avez pas des amis libraires, je pense à certains de nos amis de librairies parisiennes, qui peuvent, entre guillemets, servir d'intermédiaire le temps que vous ayez pu retrouver votre propre site?
Je ne pense pas. Je pense que les économies sont compliquées également pour nos amis. Donc, on ne veut pas rajouter des problèmes.
Peser sur leurs épaules.
Donc, des attaques en règle, des dégradations, des vols qui ont sur vous des conséquences économiques directes. Et alors, la réponse de la justice, c'est quoi là, derrière?
On a reçu des... Moi, j'en veux pas à la police, encore une fois, ils font vraiment le maximum, mais on a reçu des appels, ils ont regardé sur les caméras, apparemment, de la ville, parce que la rue étant au centre-ville historique, il y a des caméras partout, pour voir qui a pu inscrire, par exemple, Vive le Hezbollah. Mais bon, nous, je vous avoue qu'on est un peu résigné, on sait très bien que... D'ailleurs, on avait eu une fuite du procureur de l'époque, apparemment, il a changé, il avait dit que jamais ça n'irait nulle part quand la librairie est de cité porterait plainte.
Donc là, c'est charmant. Et puis en plus, il l'a dit.
Oui, non, mais c'est clair, au moins, les choses sont claires. On présente pour ces gens-là tout ce qu'ils détestent, parce qu'on est enraciné, on parle de la région, on parle de la religion, on parle de choses pas que à droite, mais on en parle aussi. Mais encore une fois, on a aussi du Proudhon, on a des choses comme ça, on a du Michel Onfray, enfin, tous ces gens ne sont pas à droite.
C'est incroyable. Je voulais vraiment que vous témoigniez pour qu'on montre à nos auditeurs de Radio Courtoisie et du Libre Journal de la Liberté de Penser ce que c'est que... D'abord, de votre côté, bravo de résister. Mais on ne devrait même pas avoir à résister quand on est libraire et qu'on propose à la vente des ouvrages qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas interdits d'être publiés. Et surtout, montrer la violence, le sectarisme, la radicalité, la haine que vous essuyez tous les jours par rapport à des commandos d'extrême gauche et de gauche tout court, hein, j'ai envie de dire. Voilà ce que c'est que d'être libraire aujourd'hui en France.
On peut rajouter quand même l'impunité.
Oui.
Parce que j'imagine juste une situation inverse. Hein. Il existe quand même des librairies qui font profession de vendre des ouvrages LGBT. Il y a même des librairies confessionnelles musulmanes. D'appel au djihad. Et j'imagine juste, en fait, quelques jeunes de génération identitaire se rassembler pour ne serait-ce que jeter par terre des ouvrages. Là, je pense qu'on aurait une réaction immédiate de la justice. Et on voit d'ailleurs la gauche dans ses œuvres, hein, puisqu'ils sont à 30 contre 1. Hein, toujours très très courageux.
Non, bah, ça, c'est, voilà. C'est signé comme
d'habitude. Hein,
40, bon, j'espère que vous allez réussir, Sylvain Durin, à vous rétablir, à rétablir votre site internet. Donc, je rappelle, les deux cités, c'est le nom de votre librairie. Elle est 6 Grande Rue à Nancy. Si vous voulez des informations, vous n'hésitez pas à nous contacter. On vous les donnera sur Radio Courtoisie. Et puis, bon courage et on prendra de vos nouvelles, Sylvain Durin, pour ce qui est de la liberté d'expression en France et de la liberté de penser. Vous en êtes la parfaite illustration. Merci à vous.
Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir. Fin de ce journal riche. Merci de votre fidélité aux éditeurs de Radio Courtoisie, de Libre Journal et la Liberté de Penser. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines. À bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Liberté de Penser, dirigé par Anne-Sophie Ongre-Boyer-le-Dieu, assisté d'Anne-Laure Malher, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 15 mars 2023, de midi à 13h30, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.